Quelle joie d'être avec vous autres ce matin encore pour ouvrir la parole de Dieu, plonger dans l'Écriture, continuer la série sur Jean. Et si vous avez remarqué ce matin, il y a un gros baptistère ici, une piscine hein, dans laquelle on va procéder à deux baptêmes aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a rien de plus excitant dans une église que de voir des vies transformées, des vies changées pour la gloire de Dieu, d'entendre des témoignages de personnes qui ont été transformées par la puissance de l'Évangile. Et c'est ce qu'on va entendre ce matin. Et chaque fois qu'on entend les baptêmes, ça me rappelle et ça me ramène moi-même à ce que Christ a fait dans ma propre vie, quand Christ est venu me chercher, quand il m'a sauvé. Ça me ramène à la joie de mon salut, de me rappeler qu'il fut un temps où, du milieu duquel je viens, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Jésus quand il était tout petit, mais du milieu duquel je viens, ceux qui croyaient en Jésus, c'était des gens pas mal étranges. Je viens d'un milieu où il y avait beaucoup de drogues fortes. Et plusieurs de mes amis ont fait des psychoses à un certain moment et ce qu'on appelle des fois des délires religieux. Et pour moi, quand j'étais plus jeune, ceux qui croyaient en Jésus, c'était ceux qui avaient peut-être un petit peu trop fêté. Puis tout à coup, ils commençaient à parler avec un être supérieur qui lui disait de faire toutes sortes de choses. Jusqu'au jour où Dieu est venu changer ma vie, même quand les gens ils venaient me voir et qu'ils me parlaient de Jésus, je parlais comme si j'avais toutes les réponses, puis je faisais comme si je le connaissais, puis j'effaçais tout de suite la solution de Dieu dans ma vie. Je le tassais tout de suite parce que, premièrement, je ne le connaissais pas vraiment, mais je parlais comme si je le connaissais. J'avais mes présuppositions, j'avais mes pensées que les gens que j'avais entendues ici, à droite et à gauche, puis je rejetais Jésus tout de suite du revers de la main. Jusqu'au jour où quelqu'un a ouvert la parole de Dieu avec moi puis a commencé à m'expliquer. Puis je me suis rendu compte que j'étais assez ignorant à propos de Jésus, que je ne savais pas grand-chose à propos de lui finalement. Et jusqu'au jour où Christ est venu changer mon cœur, où il a changé ma vie, où est-ce qu'il m'a donné des nouveaux désirs, des nouvelles aspirations, où j'ai voulu le suivre et je suis passé par les eaux du baptême comme les gens qui vont le faire ce matin. Pourquoi je prends le temps de vous raconter ça? Parce que le contexte de Jean 7 dans lequel on est ce matin est un petit peu comme celui-là. Il y a tout un paquet de doutes à propos de Jésus. On est dans un contexte où les gens discutent. Jésus est comme, il est hot, c'est lui qui est le sujet de l'heure. Tout le monde parle de Jésus à Jérusalem. Mais tout le monde se pose des questions, ils ne comprennent pas trop. Ils basent leur raisonnement sur un peu toutes sortes de choses. On voit comment Jésus vient dans sa douceur répondre à tous ces questionnements-là et même leur en donner beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient. Une des choses qui ne peut pas être faite à travers les témoignages des baptêmes, des fois on essaie tellement d'exprimer qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie puis comment c'est arrivé qu'on commence à choisir de vivre pour lui. Mais il y a un aspect qui reste toujours mystérieux. Il y a toujours un aspect qu'on ne peut juste pas expliquer. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup des années 1700 qui s'appelait Jonathan Edwards, puis il a écrit à un moment donné en donnant l'exemple du miel. Il a dit, c'est un peu comme le miel, tu essaies d'expliquer à quelqu'un la douceur du miel, à quel point le miel est bon, tu essaies d'expliquer ses composantes et tout ça, puis la personne peut arriver à une compréhension intellectuelle de dire, OK, le miel, ouais, c'est intéressant, je comprends le miel, c'est quelque chose de bon, délicieux, je devrais peut-être y goûter. Mais il dit, il y a une grande différence entre connaître les composantes du miel et savoir que le miel est doux, et l'expérimenter et y goûter. Et on va voir ensemble comment Jésus nous amène à ça ce matin. Donc, en continuant dans le chapitre 7 de Jean, la chose qu'on doit retenir, si vous retenez juste une chose à propos de ce chapitre-là aujourd'hui, vous devez retenir que Jésus est clair sur son identité. Jésus est clair sur son identité. Si seulement on osait l'écouter, on pourrait trouver en lui la satisfaction de notre âme. On pourrait trouver en Jésus la satisfaction de notre âme, comme ceux qui vont passer par les eaux du baptême l'ont trouvé aujourd'hui. Prions ensemble, après ça on va lire certaines parties du chapitre 7, parce que le chapitre 7 a quand même 52 versets, puis ce serait un peu plus long à lire, mais on va lire des passages importants pour le message de ce matin, et ensuite de ça on va plonger dans le cœur du texte. OK, priez avec moi s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on se présente devant toi ce matin, avec beaucoup d'humilité qu'on veut ouvrir ta parole, en réalisant que peut-être on ne connaît pas tant que ça qui tu es. Peut-être qu'il nous manque des bribes, peut-être qu'il y a certains aspects de qui tu es, de ton identité qui nous ont échappé, Seigneur. Et je te prie que ce matin, tu puisses briller de plein feu dans ton Église, que tu puisses te révéler clairement à ceux qui sont ici et à ceux qui nous écoutent en ligne. Révèle-toi, montre-toi comme étant véritablement celui que tu es, Seigneur, et viens briser peut-être les présupposés que plusieurs se sont faits à propos de toi. Je te prie aussi pour nous, Seigneur, peut-être qui sommes croyants déjà, qui te connaissons, que notre adoration envers toi soit encore alimentée alors qu'on regarde à ta parole et qu'on contemple la grandeur de notre Dieu. Sois honoré par ce qui prend place ce matin. Seigneur, on a besoin de toi. On n'a pas la prétention, et je n'ai pas la prétention de venir ici ce matin en ayant la capacité de produire quoi que ce soit dans le cœur de mes frères et sœurs, mais je te prie que toi, tu viennes par ton esprit et que tu élèves l'adoration dans le cœur de chacun d'entre nous. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Écoutons la lecture de la parole.
Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée qui doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule.
Merci, Julie. Toute une histoire. Jésus qui arrive à Jérusalem. Après avoir passé un an de ministère en Galilée, maintenant Jésus entre à Jérusalem pour commencer son œuvre là-bas. Et c'est la fête à Jérusalem. Si vous comprenez bien le contexte ici de ce que notre sœur vient de nous lire, on voit que la fête était proche au début du chapitre. Après ça, Jésus commence à prendre la parole au milieu de la fête. Et après, à partir du verset 37, ça nous dit que c'est vers la fin de la fête qu'il déclare cette grande déclaration de celui qui a soif, vienne à moi et qu'il boive. Donc, le contexte du chapitre 7 est réellement la fête des tabernacles. C'était une des trois principales fêtes des Juifs à l'époque. Une des trois grandes fêtes, des trois grandes fêtes qui exigeaient un pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête de la Pentecôte, et il y avait la fête ici des tabernacles. C'est la fête. Il vient d'avoir trois fêtes. Il y a trois fêtes à l'automne dans la tradition juive. Il y avait la fête des trompettes, où est-ce que c'était un appel à la repentance pour le peuple juif. À peu près 10 jours plus tard, il y a la fête de l'expiation, où est-ce que le peuple se repentait ensemble. Il y avait le sacrifice d'expiation pour les péchés du peuple qui était donné. Puis 5 jours plus tard, il y avait la fête des tabernacles. Et là, ce que le peuple faisait, c'est qu'il se préparait. Les Juifs se préparaient dans toutes les villes qui étaient autour de Jérusalem. Ils commençaient à se préparer leurs bagages pour s'en aller à Jérusalem et camper dans des tentes pendant 7 jours de temps pour se rappeler de l'œuvre puissante que Dieu avait opérée pour les sortir de l'Égypte. Il se rappelle comment Dieu avait habité avec eux sous des tentes, alors qu'il les conduisait vers le pays promis. Et là, le peuple ramassait des branches d'olivier, des branches de palmier d'un côté, des branches de citronnier de l'autre, et ils battaient des mains ensemble, et ils célébraient la grandeur de Dieu. C'était la fête probablement la plus joyeuse qu'il y avait dans toutes les célébrations juives. Et le peuple s'en va à Jérusalem. Mais ce n'est pas une fête comme les autres cette fois-là. Parce que cette année-là, le sujet principal de toutes les conversations, le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est Jésus. On connaît hein, des fêtes qui sont différentes des autres. Cette année, Noël va être très différent des autres années pour chacun d'entre nous autres qui vivons ici au Québec. C'est un Noël, oui, on le fête à chaque année, mais cette année, il y a encore un mot qui va probablement être sur les lèvres de tout le monde à cause des situations dans lesquelles on se trouve. À l'époque, le mot d'ordre était Jésus. tout le monde parlait de Jésus. Et même, on commence à voir directement au début du chapitre dans quel contexte même Jésus se trouvait avant de se rendre à la fête. Les Juifs se rappelaient à cette époque-là des promesses que Dieu avait faites. Non seulement que Dieu vivait avec eux, que Dieu habitait avec eux sous les tentes, mais des promesses que Dieu faisait qu'un jour Dieu allait habiter au milieu d'eux. Qu'un jour Dieu allait délivrer son peuple pour de bon. Qu'un jour Dieu allait remplir la terre de la connaissance de qui il est. Cette année-là, tout le monde parle de Jésus, mais le doute règne. Et drette au début du chapitre 7, on voit que les frères de Jésus, ses frères même au verset 5, ne croyaient pas en lui. Jésus faisait des œuvres, faisait des miracles, et les gens voyaient les miracles qu'il faisait. Et la Bible nous dit que même ses propres frères, les petits frères de Jésus qui vivaient avec lui, qui l'ont vu grandir, ce qui veut dire que c'est assez impressionnant, ces petits frères qui ne l'ont jamais vu pécher, et qui le voient et qui disent, Jésus, c'est l'exemple idéal, c'est le moment parfait pour toi d'aller faire tes miracles à Jérusalem, parce que les Juifs de partout vont se rassembler ensemble. C'est le moment idéal de sortir, de faire ta grande sortie, puis de te manifester à tout le monde pour qu'ils croient en toi. Il y avait probablement un petit peu de sarcasme là-dedans, un petit peu de le piquer en disant, toi qui dis qu'il est si grand. Et Jésus dit, non, ce n'est pas mon temps. Vous autres, allez-y. Moi, ce n'est pas encore le temps que j'y monte. Parce que Jésus suivait un agenda précis, l'agenda du Père. Et Jésus allait monter à la fête, là où le Père allait lui dire. Et lorsque son temps est venu, au milieu de la fête. Et déjà, Jean nous explique c'est quoi l'ambiance qui régnait à Jérusalem. Dans les versets 10 à 13, on voit que les Juifs cherchaient Jésus pendant la fête. On parle probablement des pharisiens, parce que déjà, ça commence à flotter dans l'air que Jésus dérange. Et les pharisiens veulent se débarrasser de lui, ils veulent le tuer, parce que Jésus se fait l'égal de Dieu. Et ça nous dit qu'il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « c'est un homme de bien », d'autres disaient « non, il égare la multitude ». Mais personne n'osait parler librement, parce qu'il y avait peur des Juifs. Ici, Jésus, juste avant qu'il arrive à la fête, il y a déjà toutes sortes de discussions et de divisions à son sujet. Notre premier point est vraiment simple. Quand tu regardes l'ensemble du texte et le dernier verset que notre sœur Julie nous a lu au verset 43, il est clair que quand ça vient à Jésus, Jésus divise. Et on doit bien réfléchir. Jésus est un sujet qui divise, et avec raison. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme la COVID en ce moment, hein? Il n'y a comme pas de terrain neutre. Les gens sont très bouillants d'un côté, très bouillants de l'autre. Et là, quand on parle de Jésus qui vient et qui dévoile les paroles de Dieu, qui raconte qui est Dieu, qui démontre au peuple qui est Dieu, qui vient en quelque part renverser le raisonnement de plusieurs personnes qui s'étaient faites des idées déjà sur qui est Dieu, les gens sont choqués. Et ceux qui ont de l'autorité religieuse sont choqués et perturbés. Jésus amène un enseignement qu'ils ne sont pas habitués d'entendre. Et Jésus divise. Et j'ai mis « réfléchis bien » ici. Parce qu'une des choses qu'on voit dans le texte, c'est pas différent vraiment, même si ça fait plus de 2000 ans, c'est pas vraiment différent d'aujourd'hui. Quand on essaie de se positionner sur des situations, sur des causes, bien souvent, ce qui fait en sorte qu'il y a tellement de divisions parmi le peuple et parmi les conversations, les différents partis, souvent, c'est les mêmes raisons que les gens avaient ici de douter de Jésus. Non? Quand on pense juste à cette année, Les conversations difficiles qui ont eu lieu concernant le racisme avec George Floyd, les conversations difficiles qu'on a avec les élections, les décisions que les gouvernements prennent, les conversations difficiles des fois, puis comment les pôles sont tellement séparés l'un de l'autre quand on parle de l'environnement, quand on parle de la COVID, quand on parle de toutes ces choses-là. Et bien souvent, quand on prend le temps de s'arrêter puis de discuter avec l'autre, quand on prend le temps d'écouter les points que l'autre apporte, il y a bien des murs qui tombent des fois. Non? Ça vous est déjà arrivé dans une conversation où est-ce que tu parles d'un sujet avec une personne et tu penses avoir vraiment ta position, tu penses être vraiment solide dans ce que tu penses à propos d'une situation qui est arrivée. Prenons le racisme, par exemple. Et tu commences à parler avec une personne qui a une position différente de toi, puis en l'écoutant, tu te rends compte que finalement, j'avais peut-être pas compris certains points, certains aspects. J'avais peut-être pas vraiment bien compris certains enjeux. Ici, dans le texte, les gens disent que Jésus, c'est un homme de bien d'un côté, dit qu'il égare la multitude de l'autre. On dit que c'est un démon à un certain moment donné, qu'il est possédé au verset 20. On nous dit que c'est un homme qui séduit les foules, qui a des mauvais désirs, des mauvais motifs. Et toutes les raisons pour lesquelles on vient douter de Jésus sont encore tellement similaires à celles que nous, on a des fois dans nos différends. ici dans le texte, sans aller dans tous les versets nécessairement, mais je vous le mets à l'écran, les sept, il y a sept mauvaises raisons de rejeter Jésus qu'on voit clairement, que les gens prennent comme position. Dans les versets 3 à 5, on pense aux frères de Jésus quand, qui rejettent Jésus et sa divinité ou son identité réelle parce que sa manière de faire ne leur plaît pas. Eux se disent, si c'était vraiment le Messie, il se manifesterait, il chercherait la gloire, il chercherait à se montrer à tout le monde, mais Jésus se rend à la fête discrètement. Et il est vu comme étant un homme humble. Deuxièmement, parce qu'on se base sur l'opinion populaire. On entend les rumeurs, on entend ce que les gens disent à droite et à gauche. Et on pense comme moi avant d'être croyant. Je pensais que j'avais une bonne compréhension de Jésus parce que je prenais un petit peu ce que j'entendais ici, je prenais ce que j'entendais ici, puis je pensais que mon idée était claire puis que j'avais raison. À cause de son CV peut-être. Au verset 15, les gens l'accusent en disant, mais pourquoi est-ce que ce gars-là arrive puis qu'il parle comme il parle? Il n'y a même pas d'éducation. À l'époque, les pharisiens et les enseignants de la parole de Dieu étaient des hommes qui avaient étudié dans une école réputée. Donc, il y avait souvent un rabbi qui était au-dessus d'eux autres. Et souvent, ils pouvaient citer ce rabbi-là pour dire, comme le dit un tel. Et là, ils faisaient leur enseignement. Jésus cite personne à part la parole de Dieu et Dieu lui-même. C'est incroyable. Il n'enseigne pas comme les autres enseignants. Puis à cause de son CV, on doute de lui. Puis on doute de son enseignement. Par ignorance, les versets 20, 27, 42, parce qu'il te manque des détails, parce que tu ne cherches pas assez. On va y revenir tantôt, mais il doute de son origine. Les gens, ils sont là en disant, mais voyons, lui, justement, son enseignement ne vient pas d'un tel rabbi. Ensuite de ça, le Messie est supposé de venir de nulle part. On n'est pas supposé de savoir d'où il vient. Il est supposé d'arriver comme ça. Ils se contredisent parce qu'un peu plus tard, ils disent, mais le Messie est supposé de venir de Bethléem, mais lui, il vient de Nazareth. Et nous, en lisant l'Écriture, on sait que Jésus, en réalité, est né à Bethléem. Il leur manque de l'information pour poser un jugement qui fait du sens à propos de Jésus, à cause de notre tradition religieuse peut-être. On pense qu'on a les réponses. Les Juifs en particulier attendaient un Messie qui allait les délivrer des autorités qui les oppressaient, des autorités physiques, de l'armée qui pesait sur eux. Ici, à l'époque, dans le contexte, ils pensaient que le Messie allait les délivrer de l'oppression romaine autour d'eux. Mais Jésus venait pour faire une œuvre beaucoup plus grande que ça. Il leur manquait de l'information, ils étaient aveuglés dans leur tradition religieuse. Versets 28 et 30, par orgueil peut-être. Pourquoi? Honnêtement, déjà même depuis que j'ai commencé à ouvrir la bouche ici ce matin, il y en a certains probablement qui m'écoutent et qui ont une certaine réticence, qui entendent parler de Jésus, qui entendent parler que Jésus change vraiment des vies. Et il y a un certain blocage dans notre cœur, un certain orgueil, parce qu'on sait très bien que si c'est vrai cette histoire-là, notre vie va devoir changer. Je me rappelle très bien être assis à la table dans un café avec un jeune homme, il y a de ça 2 ans à peu près. Puis on parlait de Jésus ensemble, puis il me disait, je comprends pas c'est quoi le sens de la vie, je suis pas satisfait dans toutes les choses que je recherche et tout ça. Puis assis de l'autre côté de la table, et c'est une personne que j'aime beaucoup, et je parlais de Jésus, je parlais de l'Évangile. Et il m'a regardé droit dans les yeux à un moment donné, puis il m'a dit, je comprends, Éric, ce que tu dis. Et tu sais quoi, Éric, ce que tu me dis, là, ça fait du sens. On a cette relation-là proche qui était capable d'être vraiment honnête avec moi. Il m'a dit, ça fait du sens ce que tu me dis à propos de Jésus. Mais je comprends aussi que si je décide de vivre pour lui, ça implique que je quitte le mode de vie dans lequel je suis. De débauche et de libertin. Et ça, par exemple, je ne le veux pas. Et sa décision était juste basée d'un point de vue orgueilleux en disant, moi, il y a des choses que je veux. Je sais que si ce message-là est vrai, ça va me confronter, m'obliger à changer. Dernièrement, peut-être par peur de perdre le contrôle. Ici, on pense aux pharisiens dans les versets 45 à 52, où est-ce qu'ils savent très bien que si Jésus dit la vérité, ils sont obligés de le suivre. Au lieu, eux, ils sont habitués à ce que le peuple les suive, eux. Parce que c'est eux, les grands sages, qui se promènent avec des longues robes, qui ont souvent des versets accrochés après leur veste à l'époque et qui aimaient paraître comme étant des gens tellement spirituels et religieux. Et là, ils réalisent que peut-être se sont trompés. Et si jamais il faut que Jésus soit vrai, ben il va falloir qu'ils se soumettent et qu'ils suivent lui. Mon encouragement ce matin en regardant ce texte-là, puis ce que l'Esprit faisait dans mon cœur pendant que j'étudiais le texte, c'est Éric, approche pas la question de la même manière que ces gens-là. Peut-être qu'on a rejeté Jésus du revers de la main, justement à cause de ces raisons-là, parce qu'il nous manque de l'information, parce qu'on ne veut pas que ça vienne changer toute notre vie. On ne veut pas tout creuser dans les détails de notre vie parce qu'on sait qu'il va déranger. Peut-être parce que sa manière de faire ne me plaît pas, parce qu'on se base sur l'opinion populaire et ça nous satisfait. Ma prière est que ce matin, il y a des gens qui sont ici et que chacun d'entre nous puisse réfléchir comme il faut, que ce soit dans les discussions qu'on a avec d'autres personnes à l'extérieur, mais particulièrement ce qui concerne Jésus. Fais tes recherches. fais tes recherches. Si tu sondes l'Écriture, qui est la seule source de révélation pour nous pour connaître Dieu, si tu sondes l'Écriture et que tu te mets à réfléchir, à te poser des vraies questions à propos de Jésus, peut-être qu'il y a beaucoup de murs qui vont tomber. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. Mais ici, je ne veux pas juste pointer vers le doute des gens qui sont là. Je ne veux pas juste pointer vers les mauvais aspects sur lesquels on se base pour se faire une idée de Jésus. Mais notre Seigneur, Jésus, notre berger, est tellement bon. Et même quand il parle de son cœur, il dit qu'il est doux et humble de cœur. Et Jésus va venir répondre à ses questionnements. Et c'est notre deuxième point ce matin, tout simplement. Jésus répond. Écoute. Jésus répond à tous les questionnements que les gens se posent ici. À travers tout le chapitre, on voit que les gens se posent des questions. Il y a comme c'est plus circulaire comme chapitre. Hein? C'est pas linéaire où est-ce qu'il y a un point, puis l'argument est bâti, puis il y a la réponse à la fin. Mais il y a comme tout un mouvement circulaire. Il y a le contexte de la fête, il y a le contexte des questionnements. Il y a Jésus qui vient répondre aux questions, puis qui vient mettre la lumière sur le centre de tout ce qui est en train de se passer. Et ici, Jésus répond clairement. Les gens se demandent, mais d'où vient son enseignement? Et Jésus répond clairement au verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus vient répondre en parlant de ses origines aussi, de dire de où il vient exactement. Jésus répond en disant « Où il va? » Et regardez avec moi, trois vérités concernant son identité. Justement, au verset 16 et 17, c'est écrit, « Son enseignement vient directement de Dieu. » Il ne vient pas des hommes. Normal que tu sois impacté quand Jésus ouvre la bouche, quand tu lis la Bible et qu'il y a des choses qui te marquent. C'est que l'enseignement de Jésus ne vient pas des hommes et des rabbis et des grands sages de son époque, mais il vient directement de Dieu. Imaginez-vous être assis là, à quel point c'est choquant. Pour quelqu'un qui n'a pas compris que Jésus est le Messie. Si je me tenais devant vous ce matin et que je vous disais, écoutez-moi, tout ce que je vais vous dire ce matin vient directement de Dieu. Je n'ai pas besoin de personne pour m'enseigner quoi que ce soit. Peut-être que vous auriez une petite réticence en disant, « Oh, attention, mon garçon, il y a toute une histoire à propos de l'Église et il y a des gens qui sont passés avant toi et la Bible est claire sur certains points, tu ne peux pas gober tout ce qu'il dit. » Mais Jésus ici dit, « Mon enseignement vient directement de Dieu. » Dans les versets 28 à 29, il dit que son origine n'est pas celle que vous croyez. Justement, les gens ont rayé Jésus en disant, « Ça ne peut pas être le Messie parce que le Messie, on nous dit qu'on ne saura pas d'où il vient. » Le peuple juif à l'époque pensait que le Messie allait atterrir comme ça, de nulle part, qui allait mettre son pied sur la montagne, se révéler au peuple. Et lui, ils disent, mais lui, on le sait, il vient de Nazareth. Lui, on le connaît, c'est un Galiléen. Mais Jésus dit, attendez une seconde. Vous savez, regardez avec moi au verset 28 et 29. Jésus leur dit, en enseignant dans le temple, vous me connaissez. Et ici, il y a un petit peu d'ironie. Hein? Jésus leur parle un peu en les reprenant, en disant, vous pensez vraiment que vous me connaissez? Il dit, vous ne me connaissez pas. Il dit, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus est en train d'enseigner au peuple qu'en réalité, je ne viens pas nécessairement de Nazareth. Premièrement, Jésus est né à Bethléem, comme on le sait, en accord avec les prophéties de l'Ancien Testament qui allaient dire que le Messie allait venir de Bethléem. Mais au-delà de ça, Jésus dit, je viens de beaucoup plus loin que ça. Mes origines sont anciennes. Je viens du Père éternel qui a créé la terre. C'est lui qui m'a envoyé ici. Quelques chapitres plus loin, en fait, au chapitre 8, il va avoir encore cette conversation qui continue avec le peuple. Et Jésus va dire, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Wow! Premièrement, juste de dire « je suis » comme ça, c'était toute une déclaration pour le peuple. Mais juste, réfléchissez à ça un instant. Eux, ils se disent, mais Abraham, ça fait des milliers d'années qu'il est là. On est descendant d'Abraham. Puis ils disent, toi, tu n'as même pas 50 ans. En fait, il n'y a même pas 35 ans encore. Ils disent, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. T'es fou. Et Jésus dit, non, mon origine est beaucoup différente de celle que vous pensez de moi. Et troisièmement, il dit au verset 33 et 34 que son départ est imminent. Ici, Jésus révèle au peuple qui est devant eux que sa mission est claire à ses yeux. Je suis ici encore pour un peu de temps. Je suis encore parmi vous, oui, mais pour un peu de temps. Je suis en train de vous révéler les choses à propos de Dieu, mais bientôt je m'en vais. Et le chemin, il ne fait pas juste dire que bientôt il s'en va et qu'il s'en va se cacher dans un coin, mais il dit, bientôt je retourne vers celui qui m'a envoyé. Et Jésus est en train de pointer vers la croix, parce que le chemin du retour vers le ciel pour Jésus, c'était de passer par la croix. La croix où il allait mourir pour ceux qui allaient le condamner. Le même peuple probablement qui était ici en train de poser des questions puis de se demander qui il était. allaient bientôt crier « Crucifie, crucifie » pendant que Jésus était sur la croix en train de payer pour leurs péchés. Jésus allait prendre sur lui la condamnation qui revient à chaque personne à cause de leurs péchés pour pouvoir leur donner la vie. Son départ est imminent et le chemin du retour vers le Père, c'est la croix. Donc, il révèle trois choses à propos de son identité, mais il fait aussi trois reproches au peuple. Premièrement, leur doctrine est inconsistante. Vous avez les versets à l'écran, vous pouvez les étudier. Il leur disait que ça ne fait pas de sens. Vous savez, vous dites que vous obéissez à la loi, mais en réalité, vous faites le contraire de la loi. Et la chose la plus évidente dans le texte ici, c'est qu'ils disent, nous, on obéit à la loi de Moïse, on obéit à la loi de Moïse. Jésus, toi, tu as guéri un homme le jour du sabbat, puis on n'est pas supposé faire ça. Jésus retourne ça sur eux en disant, mais vous, vous dites que c'est correct de circoncire un enfant le jour du sabbat. Donc, vous annulez une loi pour une autre. Et il leur montre qu'en réalité, leur doctrine ne fait pas trop de sens. Et en même temps, il leur dit, mais vous, vous voulez me tuer. Et la loi dit clairement, tu ne tueras pas. Leur doctrine ne fait aucun sens et Jésus le ramène dans leur visage. Encore une fois, il faut avoir des oreilles pour entendre et écouter et dire, peut-être que mes choses ne sont pas toutes vraiment bien alignées. Peut-être que j'ai des questions à me poser encore. Au verset 28, il va dire, vous ne connaissez pas Dieu. Il parle à des religieux. Il parle à des gens qui sont à Jérusalem pour célébrer ce que Dieu a fait pour eux. Il dit, vous ne le connaissez pas. Troisièmement, il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et ici, encore une fois, il fait référence à après la croix, lorsqu'il va monter vers le Père. Il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais, parce que sans la foi, c'est impossible de vivre dans la vie éternelle. Et c'est énorme comme enseignement. Tu écoutes ça et c'est absolument choquant. Mais quand tu regardes à ça, ce n'est même pas le plus choquant de son enseignement cette journée-là, ou cette semaine-là, pendant la fête des tabernacles. Jésus n'évite pas leur questionnement. Il répond avec sagesse et vérité à toutes leur interrogation, ça dépasse leur entendement. Il y en a qui sont choqués, il y en a qui disent c'est clairement le Messie, ça se peut pas, quelqu'un qui enseigne comme ça, d'autres veulent le tuer. Mais son enseignement le plus troublant ici se trouve au verset 37, vers la fin de la fête. Je vous invite à regarder avec moi, penchez vos têtes dans vos Bibles ou sur vos cellulaires, peu importe. À mon avis, il n'y a pas de plus beau son dans une église que le son des pages d'une Bible qui tournent pour regarder à ce que Jésus nous enseigne. Ici au verset 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est juste, on a parlé au début, okay, qu'on est dans le contexte de la fête des tabernacles. Et ici, pendant la fête des tabernacles, vers la fin de la fête, justement, le septième jour ou le huitième jour, il y avait cette tradition-là que les Juifs avaient. On appelait ça, je ne sais pas comment le traduire en français, mais le puisage de l'eau. Il y avait cette tradition-là où est-ce que le grand prêtre, devant tout le peuple, à un certain moment donné dans la fête, prenait une cruche en or, puis il descendait. Il y avait le réservoir de Siloé qui était dans le bas de la ville de Jérusalem. Il prenait son seau en or, sa cruche en or, et il descendait devant tout le peuple, puis il descendait jusqu'au réservoir de Siloé, puis il prenait de l'eau dans le réservoir de Siloé. Puis après ça, il remontait toutes les nombreuses marches pour se rendre jusqu'au temple. Et là, le peuple le suivait en chantant les psaumes 114 à 118. Il y avait toute une célébration. On adorait l'Éternel, puis on se rappelait ce que Dieu avait fait pour le peuple dans le désert, comment Dieu avait habité parmi eux dans les tabernacles, comment Dieu avait fendu un rocher pour laisser couler l'eau pour abreuver son peuple et les sauver de la mort. Et là, le grand prêtre monte avec ce seau en or, puis arrive en haut. Et il déverse cette eau-là sur l'autel des sacrifices. Et l'eau se répandait, il coulait par le bas de l'autel et sortait du temple. Et à ce moment-là, le peuple s'écriait ensemble en chœur. Il disait Ésaïe 12, 3. Ils chantaient ensemble, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et à ce moment-là, pendant la fête, Jésus se lève au milieu de la foule, regarde à la foule et s'écrie. Il n'y a pas le choix, c'est une célébration pour que les gens l'entendent. Et il s'écrie à la foule, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son cœur. » Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui est en train de prendre place? Jésus est en train de dire, et c'est très clair pour tout le monde qui est là à l'époque, c'est la raison pour laquelle on veut le tuer. Jésus est en train de dire, cette fête-là est à propos de moi. La fête des tabernacles, où vous vous rappelez que Dieu habitait dans des tentes au milieu de son peuple, c'est moi. Emmanuel, Dieu avec vous, Jésus qui est dans une tente de chair et qui habite au milieu de son peuple, c'est Dieu qui est avec son peuple et qui se révèle comme étant celui de qui la fête parle. Jésus est non seulement celui qui habite avec son peuple, le Dieu qui est là présent avec son peuple. Et Jean va le dire au chapitre 1, verset 14, que Jésus a tabernaclé parmi nous. C'est ça le mot grec qui est utilisé ici. Jésus a fait sa tente parmi les hommes. Mais au-delà de ça, Jésus dit, c'est moi la source d'eau qui va se répandre. C'est moi la source d'eau qui va se répandre et qui va répandre la connaissance de Dieu sur tous les peuples, comme il croyait en lisant Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Il y avait toute cette prophétie à propos de l'eau qui allait se répandre. À propos de la délivrance de Dieu, Jésus dit, c'est moi. Vous voyez, il va beaucoup plus loin que de juste répondre à leurs questionnements, mais leur montre que en réalité, tout ce qu'ils sont en train de célébrer, ça ne peut pas être plus clair. Jean est très fort à travers tout son évangile pour pointer à l'ironie des situations. Ici, c'est tellement ironique de réaliser qu'ils célèbrent la présence de Dieu parmi eux, mais ils ne reconnaissent pas Dieu parmi eux à ce moment-là. Jésus est réellement celui de qui va venir cette eau, comme le dit l'Écriture. Mais si bien qu'ils puissent comprendre avec leur tête, on a un problème qui est beaucoup plus profond que ça. Le problème n'est pas simplement au niveau intellectuel, mais il est au niveau spirituel. Ils connaissent l'Écriture, ils comprennent certaines choses, mais ils ne sont pas capables de voir Christ dans l'Écriture. La Bible nous dit que c'est à cause que le prince de ce monde de ténèbres a aveuglé l'intelligence des hommes. Si vous voulez passer du temps dans l'Écriture, allez lire 2 Corinthiens 3 et 4. C'est deux, honnêtement, mon passage préféré dans toute l'Écriture auquel je reviens tellement souvent, c'est 2 Corinthiens 3, 18. Mais dans ces deux chapitres-là, Paul explique comment le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de Dieu sur la face de Christ. On est aveuglé et même il va dire qu'il y a comme un voile sur nos yeux pour que même quand on lit l'Écriture, même quand on regarde à ce que Dieu nous a révélé dans l'Écriture, on n'est pas capable de voir Christ là-dedans et de comprendre qu'il est notre Sauveur. Il y a un aspect spirituel. Et dans 2 Corinthiens 3, il nous dit que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui enlève ce voile-là. Le voile s'enlève en Christ quand l'Esprit vient dans notre vie et nous permet de voir briller tout à coup la splendeur, la beauté, la grandeur de qui est Christ. Et c'est là que notre genou plie devant lui et qu'on l'adore et qu'on le célèbre. Je termine avec le dernier point qui est assez rapide. Jésus appelle. Viens. Vous savez, il va beaucoup plus loin que juste dire que c'est lui qui est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Jésus va beaucoup plus loin que de juste dire que de lui coule la source d'eau vive qui va vous satisfaire jusque dans la vie éternelle. Mais il dit, cette source-là va venir en vous et va jaillir de vous. Autrement dit, alors que les Juifs sont là en train de célébrer la fête des tabernacles où Dieu habite parmi eux, ils voient que Dieu est là parmi eux, mais Jésus dit, un jour, je vais m'en aller. Et Jean nous explique encore plus en détail au verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus va être glorifié quand il va remonter au ciel vers son Père et il va envoyer le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, non seulement l'Esprit va venir en nous, mais on va devenir le lieu d'habitation de la présence de Dieu. C'est une joie extraordinaire. Alors même qu'on va célébrer chacun de notre côté Noël cette année, alors même que chacun de nous, on n'a pas nécessairement, on n'est pas capable de se rassembler en église comme on est habitué de le faire, la Bible nous dit que chacun d'entre nous, on est le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. Chacun d'entre nous, on est le lieu où l'adoration prend place. Un de mes amis disait souvent, on ne vient pas à l'église pour adorer, mais on apporte l'adoration à l'église. Dans notre vie quotidienne, on a cette relation-là avec le Seigneur en nous, parce que l'Esprit habite en nous. Et quand on vient à l'église, on apporte cette adoration-là qu'on a alimentée pendant toute la semaine, puis on joint nos voix aux frères et sœurs pour élever le nom de notre Dieu ensemble. Jésus appelle. Viens. Jésus est clair sur son identité. Si seulement on osait l'écouter, on pourrait trouver en lui la satisfaction de notre âme. Et il est clair ici que Jésus ne parle pas d'une eau physique et naturelle. Jésus n'appelle pas les gens à dire, si vous venez, vous allez pouvoir boire cette eau-là, vous allez pouvoir retourner chez vous et vous n'aurez plus jamais besoin d'ouvrir le robinet pour boire un verre d'eau. Jésus parle de quelque chose de spirituel. Et plusieurs d'entre vous autres allaient être d'accord avec moi qu'il y a une certaine soif dans le cœur des hommes et des femmes qui ne peut pas être comblée par absolument rien sur la terre. Je veux dire, il y a tellement d'exemples. Pour moi, j'ai été frappé d'entendre le témoignage de Michael Jordan quand il est rentré dans le Hall of Fame. parce que c'était tellement clair dans son témoignage qu'une fois que le basketball était fini, une fois qu'il avait pris sa retraite, c'était fini. Il n'y avait plus sa joie, il n'y avait plus la satisfaction qu'il pouvait éprouver à travers de ça. Et très souvent, on voit des personnes qui arrivent au top, qui ont tout l'argent que tu rêves d'avoir, qui ont tout le succès que tu rêves d'avoir, qui ont tout le matériel que tu rêves d'avoir ou les likes sur Facebook que tu rêves d'avoir et qui pourtant sont encore secs, sont encore vides, ils sont encore insatisfaits. Et Jésus dit ici, si tu as soif, viens à moi. La vraie satisfaction de l'âme, tu peux la trouver seulement en Jésus. La seule chose que tu as à faire, c'est venir. Viens, crois. Viens à lui, bois. Crois. Et Christ va combler ta vie. Je termine avec la citation de C.S. Lewis et alors que le musicien s'approche. C.S. Lewis est un philosophe chrétien qui a écrit le livre, et vous avez peut-être déjà vu les films, des chroniques de Narnia. Et en parlant de sa propre vie, de son propre témoignage, il dit « Si je trouve en moi-même un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » S'il y a un désir à l'intérieur de moi, s'il y a une soif à l'intérieur de moi, qu'il n'y a absolument rien dans ce monde qui peut la combler, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. Et Jésus dit, c'est vrai. Tu as été fait pour la vie éternelle avec Dieu. Viens à moi, je vais combler ton âme. Viens à moi, je vais satisfaire ton âme. Parce que la soif que tu as n'est pas naturelle, mais spirituelle. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole vivante, agissante, puissante. Ce matin, mon Dieu, je veux te prier pour chacun d'entre nous qui peut-être, justement, depuis longtemps, recherchons ou avons recherché cette satisfaction-là, qu'on ne comprend pas que c'était une satisfaction spirituelle dans toutes sortes de choses. Peut-être même à travers le mariage, de penser que en se mariant tout à coup, en trouvant l'être aimé, on allait être comblé et satisfait, puis on se rend compte finalement qu'on reste avec une certaine soif. Peut-être en essayant d'atteindre un certain but, un certain succès au travail, un certain succès au niveau de la popularité, peu importe la chose dans laquelle on cherchait notre satisfaction, notre bien-être, on se rend compte que cette chose-là ne peut pas nous combler. Ce matin, Père, je te prie que tu puisses venir te révéler au cœur de chacun d'entre nous autres pour nous faire réaliser que la seule satisfaction de l'âme se trouve en Jésus-Christ. Et qu'on vienne à toi simplement, mon Dieu, qu'on ne te connaisse pas, qu'on ait entendu parler de toi pour la première fois aujourd'hui, ou qu'on entende cet appel-là pour la première fois dans notre cœur de venir, ou qu'on te connaisse depuis longtemps. Ma prière, c'est que chacun de nous puisse continuer à venir à toi pour être désaltéré, à venir à toi pour trouver cette satisfaction-là et à vivre pour ta gloire pour le reste de nos jours. Merci, mon Dieu, de ne pas être resté silencieux, mais de t'être révélé à nous. En nom de Jésus, on te prie. Amen.